Bonsoir. Bienvenue à la bibliothèque d'En Suisse qui a la gentillesse de nous accueillir ainsi que la merveilleuse association des Nouvelles Hybrides qui a invité pour ce soir une autrice assez extraordinaire, Gaëlle Obiegli. Vous êtes née à Chartres, au cœur de la Beauce. De ce hasard géographique, puisque hasard il y a, s'est tissée une relation de familiarité avec la, je vous cite, plus belle cathédrale du monde. Et vous étudiez l'histoire de l'art à la Sorbonne, le russe à l'INALCO, vous exercez différents métiers, comme celui de réceptionniste, celui du personnage d'ailleurs de totalement inconnu. Vous écrivez des dialogues de cinéma pour les films de Pierre Weiss, films dans lesquels vous jouez souvent. En 2016, vous cofondez le musée des valeurs sentimentales, c'est aussi le titre de l'un de vos romans, avec l'historienne de l'art Francesca Alberté et l'architecte Stéphanie Fabre. Ce musée est destiné à recueillir des objets fétichisés et on le retrouve cité et dans Totalement Inconnu et dans Sans Valeur. Déjà un point commun entre ces deux ouvrages. Son siège social, d'ailleurs, est situé au 10 rue de la Verrerie, dans le 4e à Paris. Nous reparlerons plus tard de ce rapport aux objets qui est à la fois une relation au langage. Vous êtes aussi une performeuse, ce qui vous a amené à travailler avec de nombreux artistes, cinéastes, plasticiens, chorégraphes. Ainsi, avec la chorégraphe Ivana Müller, vous avez conçu le spectacle Entre deux, autour du verbe broder. Et là encore, l'écriture s'étale. Vous êtes écrivain, autrice, malgré l'acidité du terme, là je vous cite pour l'acidité du terme autrice, avec 12 livres déjà parus. En 2014, vous avez reçu le prix Pierre Macorlan pour Mon Prochain aux éditions Verticales. Aujourd'hui, nous allons évoquer plus particulièrement vos deux derniers textes, Sans Valeur, paru chez Bayard en 2023, et Totalement Inconnu, paru chez Christian Bourgeois Éditeur en 2022. Ces deux ouvrages ont un point commun. Ils sont tous les deux rédigés à la première personne, du singulier. On pourra évoquer l'ambiguïté du jeu, qui entretient l'énigme de l'identité du locuteur. Est-ce l'auteur-autrice qui parle? Est-ce un double, un personnage totalement autre, pour jouer sur la formule rimbaldienne « jeu est un autre » Ce qui convient très bien à votre approche du monde et du langage. Les mots sont comme une enveloppe posée sur le monde et, en le cachant, le révèlent. C'est ce qui ressort, j'en ai l'impression du moins, de ce que vous écrivez à propos de l'emballement du Pont Neuf par Christo, à la page 59 de votre livre Totalement Inconnu. Et vous dites, page 67, « Je vois à travers le mot me fait traverser la réalité ». J'avais commencé à mettre des post-it pour marquer les pages que je trouvais intéressantes pour amorcer notre conversation. J'ai dû en enlever la plupart, et pourtant, vous avez vu, bref. Sans commentaire. Il y en avait partout, avec des renvois, des fils qui s'attachent aux échos, aux réitérations dont chaque variation apporte une nouvelle nuance. On peut faire l'exercice d'ouvrir n'importe lequel de ces deux livres à n'importe quelle page. On sera instantanément happé, retenu par une réflexion, une image, une formule, un détail, comme dans les tableaux de Jérôme Bosch, sur lesquels on peut zoomer quasiment à l'infini et toujours on aura quelque chose qui va attirer notre attention et nous séduire. Il n'est cependant pas meilleure entrée en matière que l'écoute du texte, et dit par son autrice ici. C'est une grâce. Vous avez choisi dans Totalement Inconnu le chapitre qui commence à la page 171. Donc, on ouvre le livre à la page 171, et voici. Merci.
Je serais obligée de faire un... Je vais lire cette partie, mais je serai obligée de faire de donner une petite explication au moment au deuxième paragraphe. Donc préparez-vous parce que ça va arriver très vite. Un soir, j'ai eu une vision de ma mort. Elle aura lieu de nuit. À un petit carrefour, je serai renversée par une voiture. Cela me semble évident et en même temps, cela me semble un rêve. C'est un an pile après avoir eu cette vision de ma mort qu'une voix s'est immiscée dans mon oreille droite. je n'y reviens pas. Ça, c'était tout le premier chapitre. En revanche, je vais consacrer un peu de temps à m'expliquer au sujet du soldat inconnu. La narratrice de ce livre est totalement obsédée par le soldat inconnu. Hélas, oui, le moment est venu où il faut essayer de justifier l'expression « soldat inconnu » qui revient régulièrement depuis que j'ai entrepris de rédiger une conférence. Un peu sous la contrainte, autant le dire franchement, mais j'y ai pris goût. Suis-je donc aliénée ? Je crois que c'est bien si je justifie la présence du soldat inconnu maintenant, ça rendra plus compréhensible et moins fou ce que j'ai en tête pour la suite. Et puis comme ça, ce sera fait. Il y a derrière ça la volonté de faire un point sur l'état de mes connaissances, c'est-à-dire ce que j'ai réussi à me mettre sous le coude, ce que je me suis approprié, si l'on préfère. Car la connaissance, c'est ça. Tu prends possession de quelque chose. Cela devient ta propriété. Cela t'appartient. C'est quelque chose qui est dans l'univers extérieur et qui est présent aussi à l'intérieur de toi. Si je change de pronom, c'est pour faire état de phénomènes qui vous concernent autant que moi. Car nous sommes, vous et moi, des sujets de la même espèce, donc doués de facultés d'appropriation. De cette faculté, nous tirons notre connaissance, c'est-à-dire ce qui nous est propre, ce qui nous différencie les uns des autres, ce qui m'appartient, me distingue de façon essentielle. La capacité d'appropriation, c'est un pouvoir qui n'est ni bien ni mal. À propos, il faut que je précise, je ne fais pas l'apologie de l'armée, mais j'ai en moi le soldat inconnu. Il est entré à mon insu, sans doute à cause d'un poème appris par cœur. Il m'a fait voir, il m'a fait entendre quelque chose. Apollinaire, le soldat amoureux, il m'a fait connaître l'intense. Il est mort, et comme d'autres morts, à ce titre, c'est une présence dans mon esprit. C'est une expérience mentale, mais pas seulement. Il y a aussi un fait physique. Je vais exposer ça plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas mûr. Il faut patienter un peu, pas trop tout de même. Après, on pourrit. Pendant de nombreuses années, j'ai entreposé des affaires dans une chambre qui était mon point de chute. J'en avais oublié le détail. Tout cela était au premier étage de la maison de mes grands-parents qu'il a fallu vider pour la vendre. En faisant mon tri, je disais des trucs aux morts, et notamment, je leur disais « j'ai vécu dans cette chambre ». Toutes mes affaires sont encore là, tous mes livres que j'adorais. Mais ils ne me parlent plus comme ils me parlaient, car je ne suis plus celle que j'étais. Ce qui s'est passé pour le soldat inconnu, puisque comme je vous le disais, la narratrice est obsédée par le soldat inconnu et elle imagine sa vie, des moments de sa vie. Ce qui s'est passé donc pour le soldat inconnu, ses études tout juste finies, il est parti au front. Lors d'une permission, il est revenu chez lui. Il s'est mis à tourner en rond dans sa chambre d'ado. Dans sa chambre, il a regardé ses affaires. Il a dit « Je n'en ai plus rien à faire de tous ces livres et les idées m'ennuient, elles ne disent pas la vérité. » La vérité est concrète. Je suis un soldat maintenant. Tout ce que je connais de la vie, c'est la mort. Et je sais à présent que je n'aurais jamais dû revenir. Parce qu'on ne revient pas en arrière. Et j'écrirai. J'écrirai comme je l'ai toujours voulu. Les livres m'ont donné cette envie. J'écrirai, mais en m'écartant des livres. Car les livres, désormais, me défont. Ils me rendent mélancolique. Depuis qu'Yvette est morte, c'est la grand-mère de la narratrice, depuis qu'Yvette est morte, un livre a pris place dans ma chambre. Oviri, écrit d'un sauvage, de Paul Gauguin. Je m'en souvenais à peine quand j'ai trié les affaires chez ma grand-mère. j'ai retrouvé une très longue dissertation rédigée au stylo-plume, datant de mon cursus d'histoire de l'art. La disserte portait sur cette sculpture que Gauguin a façonnée à Tahiti. Il lui a donné le nom d'Oviri. Le commentaire scientifique, disons l'analyse de l'œuvre, pour laquelle j'ai obtenu la note de 14 sur 20, aurait pu être l'ouvrage de n'importe quel étudiant. C'est si morne, si conforme. À la fac, j'écrivais avec un tour scolaire, sans risque, à l'encre bleue, avec un but, celui d'obtenir un résultat qui me permette de conserver ma bourse et l'estime des profs. Mais en une nuit, tout ceci a fait place à un besoin d'émotion forte. Pour cela, j'ai trouvé des compagnes et des compagnons de route. On a essayé plein de trucs, plusieurs chemins qui nous ont dilaté l'imagination, grâce à quoi on lit mieux. Même les livres de philosophie, même le journal. Encore que la lecture du journal, dans mon cas, n'a pris de sens qu'à partir du moment où j'ai eu un emploi. C'était au départ pour ne pas crever la dalle, et finalement, de cette condition d'employé, j'ai aussi tiré des fruits spirituels. Il en a été question ici, et il en sera encore question. Pour se faire poète, il faut faire entrer son métier dans ce qu'on écrit, parce que toute œuvre procède d'un rapport personnel aux choses. Aujourd'hui, je m'autoriserai à aborder Oviri personnellement, avec mon instinct, peut-être même en lui disant « tu ». Ce serait sans doute irrecevable pour l'Académie qui, certes, détient le savoir, mais peut-être pas la vérité, pas plus que moi. En histoire de l'art, on nous demandait un peu d'interpréter des formes. Surtout, on nous demandait de les décrire, ce qui suppose en premier lieu de regarder. Dès l'école primaire, il nous était demandé de faire des exposés. Je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai fait, à part un. Quelles connaissances ai-je bien pu exposer à ma classe et à mes enseignements ? Je ne me souviens pas non plus des exposés que j'ai écoutés. De la physionomie, des circonstances, oui, ça, je m'en souviens. Le cadre, oui, je m'en souviens, mais pas du contenu. Il en est de même avec les livres. La plupart du temps, j'oublie de quoi il s'agit. Je ne retiens que l'existence associée à la lecture. Le temps, l'espace où elle s'est déroulée, elle les a aussi créés. Les pensées, les changements de cap qu'elle a suscités, les prises de conscience, je ne les oublie pas, contrairement au texte lui-même. Les livres trouvent leur traduction dans la vie que l'on mène en leur compagnie. Ce sont parfois des relations d'une nuit. Pour d'autres, l'attachement dure toute la vie et l'on se souvient avec nostalgie de la rencontre. À l'université des exposés, on a eu à en faire aussi. Je me souviens d'avoir parlé d'un peintre orientaliste nommé Decamps. Le tableau projeté sur l'écran a capté l'attention de la classe plongée dans la pénombre. Les condisciples regardaient l'image projetée, ou bien ils suivaient les particules agitées du faisceau de lumière. Cette matière vibrante aboutit à une figuration glacée. J'avais un grand bâton qui me permettait de diriger leur regard sur les parties mentionnées dans mon commentaire. C'est assez simple comme exercice. Il faut regarder, décrire, analyser. On part de ce que l'on voit pour atteindre ce qu'on ne voit pas, ce qui est derrière, ce qui est en dessous du visible. D'une certaine façon, c'est ce que fait un chat quand il cherche son semblable derrière le miroir, pour n'y trouver rien, ni personne. Seulement nous, les humains, on trouve toujours quelque chose, même s'il s'agit de rien. On trouve que rien, c'est quelque chose. C'est pour ça que nous dominons la Terre. Le jour où nous n'aurons plus le langage, nous ne dominerons plus rien du tout, car notre qualité animale est médiocre. Et si on perd notre spécificité, la parole, il va falloir s'incliner devant tous les autres animaux. La lumière pédagogique de l'exposé a eu pour vertu de me faire interpréter des textes, des documents, des œuvres. Cela suppose de les ouvrir et de les faire communiquer avec d'autres langages, de créer des relations et de deviner. Deviner ce qui a déterminé des faits et des œuvres. C'est un savoir qui repose principalement sur l'intuition.
Bon, voilà. Merci beaucoup. On a vraiment l'impression ici que vous nous livrez votre art poétique. De l'exposer.
Peut-être, mais mon art poétique, il n'est pas... je ne l'ai pas théorisé. En fait, mon art poétique, si je peux m'exprimer d'une manière aussi ambitieuse, il repose sur l'existence. C'est mon point de départ et c'est ce qui donne l'énergie, ce qui donne mon énergie pour écrire et c'est aussi ce qui, je crois, donne l'énergie au texte.
D'accord.
Voilà.
En tout cas, ce chapitre, c'est vous qui l'avez choisi,
Oui.
La lecture de ce chapitre précisément. Et en plongeant vraiment dans ce chapitre et en reprenant le livre autour de lui, on se rend compte que c'est un point d'ancrage de votre recueil. Il est totalement crucial. Alors, ça pourrait être valable pour d'autres, parce que vraiment, il y a tellement d'échos, justement. Mais il tient quasiment tous les sujets abordés dans le livre et qui replonge comme cela. On a les enseignements reçus, on a le soldat inconnu, évidemment, qui hante l'œuvre complètement. On a aussi la relation aux mots, et là on va y revenir parce que c'est une relation extrêmement particulière, vraiment. Et il y a aussi l'amour des auteurs. Là, vous citez Apollinaire, mais dans le reste du livre, il y a votre cher Tolstoï, il y a Kant, il y a vraiment énormément d'auteurs qui arrivent cités ou pas forcément cités, mais dont on a l'esprit qui hante comme cela vos phrases. Il y a Yvette, la grand-mère de la narratrice, la peinture, la nécessité des émotions, le tri, ce tri qui sera exploité complètement dans le livre suivant avec Sans valeur. On pourrait donc disposer tous les chapitres en étoile autour de celui-ci. Est-ce que vous pourriez nous donner deux mots pour nous dire comment vous avez construit cet ouvrage ? Comment est-ce qu'il s'est orchestré ? Parce que vraiment, il y a une structure extrêmement fine et avec des échos qui se renvoient les uns aux autres avec ces fils comme cela, le fil du soldat inconnu, on le retrouve un petit peu partout. Enfin, le côté de Brodé, justement. Je ne sais pas, comment est-ce que vous avez construit cet ouvrage ?
Oui, alors, contrairement à ce qui pourrait, sembler, c'est très construit. C'est-à-dire que... je peux raconter comment le livre s'est élaboré. D'abord, à part Sans valeur, mes livres s'élaborent assez lentement. J'avais, à un moment, j'ai commencé à me demander comment se fait-il que il y a pas mal de choses que je ne connais pas, mais que je connais quand même. Alors, j'avais un cahier où, dans lequel je notais toutes sortes de questions autour de la connaissance et finalement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'est pas tellement la connaissance, c'est le mode de connaissance. Et il y a un mode de connaissance qui m'intéresse particulièrement, qui est l'intuition. Qui est le mode de connaissance, c'est un mode de connaissance qui est propre à tout le monde, mais qui est particulièrement exploité par les artistes. Mais j'ai découvert aussi que les scientifiques travaillent beaucoup aussi de manière intuitive. Alors ensuite, eux, ils ont l'obligation de prouver avec la méthode scientifique ce qu'ils ont découvert par intuition. Mais en fait, ce mode de connaissance m'intéressait particulièrement. Et puis, c'était assez fécond aussi pour l'écriture parce que je me suis dit, bon, eh bien, tu vas essayer d'écrire des choses que tu ne connais pas, c'est-à-dire dont tu n'as pas fait l'expérience. Alors, dans ce fameux cahier, j'ai commencé à décrire des pays, des lieux où je n'ai jamais mis les pieds. Et je me souviens que j'avais décrit un quartier de Tokyo, très précisément, mais presque comme un dessinateur dessinerait des vignettes, comme ça, en s'appuyant uniquement sur l'imagination. Et un soir, je vois un ami qui revenait du Japon, et je lui dis, écoute, je vais te décrire un quartier de Tokyo qui s'appelle comme... Je m'étais juste appuyée sur le nom, mais là, ça ne me revient pas. Et il m'a dit, ah mais oui, en fait, c'est un peu comme ça. Et donc, j'étais assez fascinée par ça, quoi, par le fait qu'il y a des choses qui... Comment dire, dont on a une connaissance qui est complètement, enfin une connaissance a priori quoi, qui repose pas sur l'expérience et qui ne repose pas sur autre chose que l'imagination, qu'une appréhension comme ça intuitive. Et donc ça, c'était ma recherche. Et ensuite. J'ai voulu associer ça à autre chose, parce que j'ai depuis très longtemps, je construis mes livres en articulant deux notions opposées. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait le contraire de la connaissance? Qu'est-ce que vraiment on ne peut pas connaître? Il n'y a qu'une chose, c'est la mort. Et donc, le livre s'articule autour de la mort et la connaissance, ce que je peux connaître. Et voilà. Et le soldat inconnu, je voulais que le soldat inconnu, en tant que mort le plus célèbre du monde, tout en étant totalement inconnu, ce qui est paradoxal, soit une figure du livre, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'attachement, d'affection pour le soldat inconnu, parce que j'ai vécu dans un village où, comme dans tous les villages, il y avait un monument aux morts et que c'était un point de ralliement pour retrouver les copains, pour aller jouer, etc., pour faire une petite marelle devant le sol, parce que le goudron était nickel, donc c'était vraiment bien pour dessiner, etc. Et donc en fait, c'est comme un ami, quoi, un ami tragique qui accompagnait les jeux et les moments de camaraderie. Et là aussi, je voulais associer à ce soldat inconnu, à cette figure quand même assez... assez austère, maussade, il y a un côté grisâtre, verdant, tout ça. Ma propre grand-mère, qui était une des femmes les plus joyeuses du monde, et je voulais créer une espèce de couple mal assorti, comme ça.
On reviendra sur elle.
Donc ça, ça s'est construit comme ça. Et j'écris des livres qui... Enfin, disons que le livre n'est pas... Il y a un fil narratif, mais c'est quand même... la plupart du temps, ce sont des moments qui m'amènent à réfléchir, à approfondir cette réflexion sur la connaissance, ce que je peux connaître. Comment je connais ce que je connais, ce que je connais pas, comment je le connais quand même, etc. Donc il y a des chapitres qui approfondissent ou qui contredisent ce qui a été dit. Et juste pour finir, on a peut-être dit parfois que j'étais la reine du coq à l'âne, ce qui ne me dérange pas du tout, parce que c'est un truc que j'aime bien travailler, c'est-à-dire passer d'une chose à une autre sans transition. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même toujours un lien, C'est ma propre logique.
Moi, je mettais pas ça. Je ne pensais pas au coq à l'âne. Moi, vous m'avez plutôt fait penser aux essais de Montaigne avec sa pensée très poétique à Sceaux et à Gambade.
Oui, c'est ça. Mais
ce
Montaigne,
qui est beaucoup c'est plus proche de votre type d'écriture, d'ailleurs, en fait, avec une très grande. Enfin, on l'a entendu, et une très très grande liberté de style. Il y a beaucoup d'oralité et en même temps, c'est très écrit. On a vraiment un travail très très fin, justement, très littéraire.
Oui, oui, bah Montaigne, c'est mon grand copain, si je peux dire. J'ai appris beaucoup de lui, et pour l'existence, et pour la pensée et l'écriture. Mais également, ça va peut-être vous surprendre, mais le surréalisme aussi a été très important dans mon parcours, et notamment cet élan pour établir des rapports entre des choses qui n'ont apparemment rien à voir. Et voilà.
Non, je ris parce que l'une de mes questions, c'était par rapport à la page 234, vous parlez du hasard, et je me demandais, est-ce que chez vous, le hasard est objectif comme chez André Breton ?
Ben, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de... je n'ai pas de conviction par rapport au hasard. J'ai pas de conviction par rapport au hasard, mais moi j'ai toujours l'impression que une chose en amène une autre, et j'ai pas une vision du hasard comme quelque chose qui surgit, mais un aboutissement, comment dire, comme un rouage plutôt.
Enfin, revenons à notre soldat inconnu, puisque quand même il est là. Ouais. Et avec le soldat inconnu est abordé donc le thème de la mort. Et il y a une couleur qui lui est souvent attribuée, c'est le bleu. J'ai remarqué, il y a souvent l'adjectif bleu que l'on retrouve, même sur la tombe dans laquelle se projette votre personnage.
Ah oui.
Et avec la texture du miroir. D'ailleurs, avec le côté, lorsque les gens viendront me voir sur ma tombe, ce sera un bleu tellement qu'ils réfléchira et ils se verront dedans. Je leur renverrai mon image, leur image.
Oui.
Et l'on revient donc toujours à cette écriture, lorsque vous évoquez les discours d'enterrement, qui s'adressent aux morts. On leur dit « tu », on les dit « tu » aux morts. Mais en fait, cette adresse aux morts, par ricochet, eh bien, elle revient sur les vivants. Ça fait très bossuer, hein, ça c'est clair. Et on a cette fonction du pronom « tu », du point de vue du déni de la réalité, qui est aussi l'occasion de la poétiser un peu. Puisqu'on dénie la réalité de la mort, puisqu'on s'adresse aux morts, il ne va pas entendre. Forcément, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on la refuse. Et le réel devient poétique. Il y a une sorte de construction, en fait. Vraiment, là, c'est, on est la poésie d'une manière étymologique qui fabrique les choses.
Oui.
Donc, même la mort, chez vous, donne une impulsion. Et d'ailleurs, on a les morts qui, dans la terre, vont... ça, on a aussi tout un paragraphe là-dessus. Dans la terre, les morts qui vont redonner de la vie, en fait, qui rentrent dans une sorte de logique. On a vraiment... tout concourt à la vie, en fait.
Oui. Et puis... ce qu'il y a, c'est que... je pense que tout le monde est allé à des enterrements, enfin, des cérémonies. Mais... moi, je me suis rendu compte que c'est souvent des moments qui sont à la fois d'une grande trivialité, et en même temps, c'est des moments où, dans les discours d'hommage, il y a souvent quelque chose de... quoi qu'on dise de la personne qu'on est en train de célébrer, les gens qui prennent la parole font état d'un rapport très poétique à la vie, la plupart du temps. Et ça m'étonne souvent quand je vais à des enterrements. J'ai été à pas mal d'enterrements, notamment avec ma grand-mère au village. Tout à coup, j'étais étonnée de voir que la dame chez qui j'allais acheter le lait de chèvre était tellement poète, en fait, quand elle parlait du défunt, c'est-à-dire qu'il avait relevé des tas de détails. Et oui, il y avait un rapport poétique à la vie qui s'exprimait là, comme si c'était permis à ce moment-là. Parce qu'en fait, la personne à qui ça s'adresse n'est pas là pour entendre. Et c'est ce qui se passe quand on écrit un livre, on écrit dans la solitude, on ne sait pas qui va lire. Il y aura toujours au moins un ou deux lecteurs, ne serait-ce que l'éditeur, mais c'est pas... c'est plutôt... On écrit face à la mort, comme face à la mort, on écrit, on s'adresse, enfin moi en tout cas, il y a un tiers inconnu, il y a quelqu'un, on s'adresse à l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi quand on est, quand quelqu'un prend la parole à l'occasion d'un enterrement. Donc il y a un jaillissement d'une conscience du langage dans ces moments-là. C'est toujours extrêmement vivant. C'est pas du tout comme les discours politiques. C'est l'inverse. C'est hyper vivant. Voilà.
Oui. Enfin, d'ailleurs, c'est vrai que
je n'espère que personne ne se sent visé par cette pique.
Oui, d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de piques politiques justement dans le. Dans les deux ouvrages, on les retrouve, les pics politiques qui sont la difficulté à trouver un appartement avec le coût du loyer où il faut avoir trois fois, le salaire doit être trois fois supérieur, mais ça c'est pour sans valeur, donc c'est encore autre chose.
Oui.
Il y a donc, on disait tout à l'heure, ce travail donc, et l'allure poétique que l'on a chez Montaigne, vraiment. Dans ce monologue, parce que c'est vraiment un très très long monologue, on a aussi des choses qui se passent et qui donnent des points de réflexion. Par exemple, on a un inconnu croisé à une table durant la période covidienne. Il est masqué et au début il est mutique et puis il s'avère être un cinéaste, vous lui parlez de Bergman. Et or là, le flot de paroles se déverse et à la fin, il assène à la narratrice: tu confondrais pas le savoir et la connaissance. Et là, la narratrice répond, enfin, elle, dans sa tête, parce qu'elle est partie, et donc c'est sur le chemin du retour, elle dit: le savoir m'intimide, la connaissance m'émerveille. C'est la différence que je fais entre les deux. Et le chapitre suivant, et là, donc, on va avoir une série de chapitres où on retrouve ce problème-là. Qu'est-ce que le savoir? Qu'est-ce que la connaissance? Et c'est vrai que là, on se pose la question soi-même, le lecteur, lui aussi. D'ailleurs, vous évoquez le lecteur dans un des chapitres. Vous entrez dans un Fab Lab. Et à cette occasion, écrivez-vous, j'ai découvert que la connaissance et le savoir-faire s'articulent. Et en fait, le savoir-faire, donc de fabriquer, vous allez fabriquer, enfin, vous, non.
La
narratrice va fabriquer une étagère pour son chat. Et donc, il y a le savoir-faire pour fabriquer, mesurer, etc. Et les connaissances qu'elle avait emmagasinées au collège et qui vont, pour la première fois de sa vie, lui servir avec l'équerre, etc. Et tout. Et donc, on a cette confrontation entre savoir et connaissance. Et c'est un sujet qui va tracasser la narratrice à partir de cette question-là, mais tout au long, et on va la retrouver tout au long, et traiter de manière différente à chaque fois, si bien que nous, en tant que lecteurs, on va avoir aussi l'impression de mieux comprendre cette articulation entre savoir et connaissance. Je ne vais pas vous le dire, c'est dans le livre, il faut le lire. Ça, voilà. Après, il y a aussi quelque chose qui est assez extraordinaire, il y a les voix intérieures. Dès le début du livre, on a ces voix intérieures qui sont là et qui parlent à la narratrice et qui la hantent et qui font que son monologue est parfois un peu dialogué. Enfin, c'est un petit peu difficile d'être le jeu. Et pourtant, c'est un jeu qui porte le monologue de livre.
Oui.
Et ce
Ce jeu de l'écriture, écrivez-vous, est un, entre guillemets, jeu mythologique. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce jeu mythologique, parce que j'ai trouvé que c'était magnifique comme expression, jeu mythologique.
Oui, alors d'abord, je peux revenir un peu sur les voix.
Ah mais oui.
Parce que effectivement, la narratrice, et c'est comme, enfin, c'était le premier chapitre comme ça, la narratrice entend une voix qui lui donne des instructions et qui lui promet quelque chose, qui lui promet une espèce de... disons qu'il y a une espèce de récompense si elle suit les instructions. Et donc elle le fait. Non pas que les choses qu'on lui demande de faire lui plaisent, mais elle est quand même curieuse de là où ça va la mener. Et ça, c'est... comment dire... Ça, c'est un truc qui m'intéresse. En fait, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de mythologie, justement. Et l'Iliade et l'Odyssée, bon, pour les enfants, hein, n'allez pas croire que j'étais... j'ai pas lu Le Capital de Karl Marx à 7 ans et demi, comme certains. Non, mais je lisais ces textes-là, quoi, et la mythologie. Et notamment, dans l'Odyssée, ce que j'adore, c'est que... tout le début, en fait, c'est les personnages, Télémaque notamment, entend des voix. Enfin, on dit ça, entend des voix, mais c'est-à-dire que c'est la déesse Athéna qui lui parle, lui donne des conseils, fait ci, fait pas ça, etc. Et finalement, nous, les êtres humains, on a toujours vécu, il me semble, avec une voix. Une voix extérieure, mais ça a pris différentes formes. C'est dans la littérature, mais aujourd'hui c'est au supermarché, ils ont des oreillettes, on leur donne des instructions par l'oreille. Il y a le surmoi, il y a beaucoup de variations autour de cette voix qui vous contrôle et qui en même temps parfois vous pousse vers des aventures. Parfois c'est des gens qui sont dérangés et qui vont expliquer que oui, ben en fait il y avait quelqu'un qui me disait de faire ci, de faire ça, et qui commettent des actes qui ne sont pas explicables rationnellement. Donc, je pense qu'on a tous affaire à ça, soit d'une manière, comment dire, ces petites intuitions où on se dit, ah, une petite voix qui me dit que je ne devrais pas aller à ce rendez-vous, ou des choses comme ça, ou même parfois, on attend, avant de prendre une décision, on attend d'avoir, de savoir réellement ce qu'on doit faire, parce que il faut que ça vienne, quoi. Il faut qu'il y ait justement cette voix. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, le jeu mythologique. Ben, le jeu mythologique, c'est le jeu de la narration, c'est-à-dire que c'est pas le jeu que j'emploie dans l'existence réelle, concrète. C'est un jeu qui est transposé, qui est là pour créer du récit, qui est là pour... il crée du récit, et dans ce récit, je peux confier ma pensée. Voilà, c'est ça le jeu mythologique. Donc il est à moitié faux, mais j'ai besoin de ce jeu mythologique pour transmettre ma réflexion.
Donc à moitié vrai.
Oui, c'est à moitié vrai. Mais... c'est-à-dire que... Je ne sais pas si... Enfin, disons que le langage... Le langage est là pour manifester ce qui n'est pas là réellement. Si je dis le mot table, chacun va se représenter la table qui n'est pas là réellement. Voilà, il prend la place, quoi. C'est quelque chose qui se substitue et qui supporte entièrement une réalité, mais qui est une réalité dédoublée.
Oui. D'ailleurs, vous faites dans ce livre, il y a des chapitres qui sont consacrés aux déterminants, aux articles.
Oui.
Le ou un.
Oui.
Par exemple. Le soldat inconnu, c'est un soldat inconnu, mais le, il devient universel.
Oui.
Et on a vraiment une analyse comme ça, très très fine du langage, tout le temps. Et à un moment donné, vous dites, il y a un lac. Et lac, il n'y a même pas de déterminant devant, il n'y a pas d'article.
Oui.
Et à ce moment-là, il prend une dimension de concept, en fait.
Oui.
Et c'est plus ça. De mots. On a vraiment une étude comme cela, très grammaticale en fait, dans le sens où la grammaire nous permet de comprendre la langue et de comprendre l'outil en fait. Il y a une analyse de l'outil qui permet de, comme Christo qui va envelopper le pont neuf avec du tissu, puisqu'on le retrouve dans le livre, exactement, le langage va recouvrir le monde du tissu des mots, et donc il faut savoir exactement comment le tissu est articulé et fabriqué, et comme cela, bien, je l'utilise, et vous donnez ces clés là aussi pour que le lecteur sache, oui, j'ai un outil, je l'utilise, voici les règles de cet outil. On a aussi le mode d'emploi qui est donné. C'est pour ça qu'on a un livre qui est tellement riche aussi. On a vraiment toutes ces strates qui sont présentes.
Mais dans des situations concrètes.
Toujours, bien sûr.
Ouais, c'est pas. En fait, je m'appuie toujours sur des situations concrètes, comme. Enfin, chaque chose peut m'amener à penser, à divaguer, à m'étonner, à me dire, tiens, mais pourquoi on dit ça comme ça et pas comme si mais c'est des situations concrètes, hein, c'est pas... Enfin, je le dis parce que c'est pas
un... Mais comme vous le disiez
dans le livre théorique.
Non, c'est pas du tout, c'est exactement comme les exposés, en fait.
Oui.
Quand vous parlez du système des exposés, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, parce que dans le système de l'exposé, j'ai un fait concret que je vois, et de là, hop.
Oui.
Je pars et voilà, et on est dans l'expérimentation toujours, et on revient toujours sur le concret. Ça,
oui,
c'est clair aussi. Dans le concret, d'ailleurs, hormis les personnages très marquants que l'on a eus, donc on a le soldat inconnu, il y a une certaine Madame Vouet, il y a les professeurs, et vous insistez beaucoup sur ce qu'ils vous ont apporté,
oui,
vos parents, et la grand-mère, Yvette, qui va même être archi vieille et d'une malice intacte. Et il y a un chapitre où vous évoquez la mort de la grand-mère à l'EHPAD. Et c'est une leçon de vie extraordinaire. Et à un moment donné, elle est très malheureuse parce que sa porte n'a pas de clé. Et vous lui apportez une clé qui ne va pas ouvrir la porte ni rien, mais ce n'est pas grave. Mais lorsque je vais partir, qu'est-ce que je vais faire de cette clé? Tu t'en fiches, tu claqueras la porte. Et là, il y a aussi, c'est très concret en effet, c'est une image, mais en même temps, c'est une leçon de vie complète que vous donnez. Donc c'est un livre qui parle de la mort, mais on est toujours du côté de la vie et toujours dans... parce qu'elle rit jusqu'à la fin, en fait. Elle est toujours inventive, elle est toujours... Enfin, il y a une... Et cette puissance vitale, on la retrouve justement partout,
oui,
dans ce livre. C'est ce qui est très beau aussi.
Bah, c'est-à-dire que... là, je ne vais pas dire la narratrice ceci, la narratrice cela, parce que ce personnage qui s'appelle Yvette, c'est ma grand-mère. Et à la fin de sa vie, j'adorais aller à l'EHPAD, Mais moi, j'ai adoré aller à l'EHPAD, voir ma grand-mère. Mais elle racontait n'importe quoi. Mais je trouvais ça génial. Et donc, on jouait. Je ne faisais pas partie des gens qui disaient « Mais non, mais dis pas ça, mais c'est pas la réalité. » Non, au contraire, je trouvais que c'était fabuleux de terminer comme ça dans un feu d'artifice de n'importe quoi. Mais tout était tellement, plein de sens et de métaphores et de c'était comme je voyais d'autres personnes âgées, même archi vieilles, et j'avais l'impression que enfin je sais pas, il se passait des choses qui étaient du même ordre que ce qui se passe dans la cour de l'école maternelle. C'est-à-dire qu'avec vraiment, en étant extrêmement contraint, il y avait tout à coup une intensité dans les perceptions. Tout était à la fois infime et intense. Et voilà, et je me souviens que ma grand-mère... Les derniers mois de sa vie, les trois derniers mois de sa vie, elle avait un peu perdu la boule, mais pas totalement. Mais il y avait des moments où on se mettait à la fenêtre en plein mois d'octobre en Île-de-France, tout était gris, il n'y avait plus une feuille sur les arbres. Et elle me disait, c'est quand même beau ces cerisiers en fleurs, non ? Et moi, je disais, bah oui, bien sûr, c'est magnifique. Et donc, on se mettait à contempler toutes les deux des trucs qui n'existaient pas, mais avec les mots, on arrivait à faire jaillir le printemps au début de l'hiver, quoi. Et voilà, donc c'était un petit truc, c'était une complicité dans la folie. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable la semaine dernière. Là où j'habite, à Montreuil, il y a un monsieur qui est assis devant le supermarché. Il est fou. Et c'est un grand homme africain qui vit là, sur le trottoir. Et il a des moments où il est en crise par moment. Et donc, il se met à hurler. Et l'autre jour, il y a un musicien qui est passé et qui l'a vu en crise, en train de hurler. Il s'est accroupi à côté de lui et il a sorti des instruments de musique de sa mallette et il a commencé à rythmer la vocifération de l'homme. Et c'est devenu... Les passants se sont arrêtés et les gens ont commencé à rythmer comme ça en tapant dans les mains. C'est devenu une espèce de performance musicale, poétique, très forte. Donc, voilà, quoi, c'était pas du tout un moment de terreur. Au contraire, ça a été transformé en un moment de beauté. Mmh. Enfin, voilà, c'était...
Oui, la capacité de l'art à transfigurer le monde, hein, quand même.
C'est ça. D'ailleurs, vous dites à un moment donné, une belle fleur n'est belle que parce qu'on la regarde. Oui. Voilà, c'est... Alors bon, on dirait que tout est très sérieux dans le livre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'humour et de distanciation. Par exemple, il y a une scène qui me fait penser à une scène du charme discret de la bourgeoisie de Buñuel, lorsque vous dites que les gens, quand vous les voyez manger, vous les trouvez beaucoup plus indécents que dans beaucoup d'autres choses. Et ça me rappelle une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le charme discret de la bourgeoisie. Il y a des gens qui sont tous très très chics, très bien, et ils sont tous sur leur pot de chambre autour d'une table, de la table, voilà, comme ça. Et parfois, ils s'éclipsent et ils vont dans ce que nous appellerions les toilettes, et ils se mettent à manger là, parce que vraiment, ce qui est indécent, c'est ça. Et ça m'a fait penser au charme discret de la bourgeoisie. Enfin bon, il y a tout le temps des choses qui font... parfois, vous avez donc une excellente oreille, puisque vous avez l'oreille de Super Jamie, la femme bionique.
Vous connaissez Super Jamie ?
Vous savez que je suis allée sur Internet pour voir, etc. Donc maintenant, je sais.
Ouais, parce que tout le monde connaît, ne connaît pas Super Jimmy.
Oui. Je suis allée
vous,
la chercher.
Non, vous connaissez pas. Si. Oui. En tout cas, ceux qui connaissent en général connaissent bien. C'était un feuilleton, donc j'explique un peu. C'est moins connu que Montaigne, mais donc c'est un feuilleton qui passait, je sais pas, dans les fin des à la fin des années 70. C'est une femme bionique. Elle a eu un accident et ils l'ont réparée et elle est augmentée. C'est une transhumaine avant l'heure. Donc moi, j'ai beaucoup regardé ça et je me suis identifiée à Super Jamie. Donc j'avais pas du tout sa coiffure, elle avait des cheveux longs, blonds. Moi, j'avais une coupe au bol, comme tous les enfants des années 70. Mais parfois, je faisais comme elle, parce que Super Jamie, je dis pour ceux qui n'ont pas vu ce feuilleton, elle vit une vie quotidienne normale, c'est une femme au foyer avec des enfants. Mais parfois, grâce à ses super pouvoirs, elle peut intervenir dans des situations extrêmement délicates. Donc il y a par exemple un moment, elle est en train de laver la vaisselle après le repas. Les enfants jouent dans leur chambre. Elle est en train de laver la vaisselle et elle entend un léger bruit. Et donc quand elle fait ça, elle soulève ses cheveux, elle met ses cheveux derrière ses oreilles et ça fait... Et là, on sait qu'elle est en train d'entendre ce qui se passe à 15 km. Elle comprend qu'il y a un homme qui est en train de violenter une femme. Et donc, elle laisse sa vaisselle et elle part. Elle est en blouse, hein, quasiment. Elle est en blouse. Et elle part et donc, elle est augmentée aussi des jambes. Et donc, elle court, elle est au ralenti, comme ça. Comme le chat botté, elle franchit deux lieues en 30 secondes et elle bastonne tout le monde et elle sauve la femme qui était en... Enfin, ça, c'est un épisode. Il y a plein de situations. Il y a notamment un épisode sur YouTube, où, un morceau d'épisode où on la voit massacrer un type qui est une espèce de virtuose du kung-fu. Mais elle le met en miettes. J'en casse le micro. et donc voilà, ça c'était. Alors, voilà, je m'étais dit, si un jour j'arrive à parler de Super Jamie dans un livre, déjà ce sera un accomplissement.
Voilà. Moi, l'épisode que j'ai vu, l'extrait d'épisode que j'ai vu, elle était en classe et ça m'a fait penser à vous puisque vous alliez intervenir dans une classe et donc d'enfants qui n'étaient pas gentils au départ et elle leur demande un bottin et elle leur parle avec énormément de gentillesse et elle déchire le bottin comme ça, schlac, schlac. Et les petits, ils ont tellement peur qu'après, ils sont hyper gentils avec elle.
Moi j'ai essayé.
Elle ne les menace pas.
J'ai fait beaucoup de.
C'est difficile. Hein?
J'ai essayé de déchirer des bottins. Ça m'a occupé beaucoup d'heures. À l'époque où on avait des bottins, mais j'ai jamais réussi.
Eh oui, c'est. Donc voilà, le livre a beaucoup d'humour aussi. Le suivant, donc. En fait, sans valeur, c'est l'accomplissement du premier. On a l'impression qu'on a eu la théorie, mais pas que la théorie, parce que vraiment, il y a tellement d'histoires, que, voilà, dont Super Jimmy. Donc. Mais là, c'est vraiment l'exemple qui correspond à ce qui a été dit précédemment. Et cela commence d'une manière, mais extrêmement cocasse. En fait, c'est toujours un personnage à la première personne, donc une narratrice, un jeu. Mythologique, donc, qui est là comme ça. Et cette femme est en train de déménager. Donc, elle trie. Elle enlève, elle jette. Et c'est compliqué, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que je vais garder qui va pouvoir servir d'archive ? Alors, les archives, en plus, la définition de l'archive, très savante, le mot grec, etc. et tout, c'est très bien. L'archive consacre l'objet. Le rend immortel. Et puis, il y a ce que l'on va jeter, ce que l'on va mettre au rebut. Vont intervenir les fameux bifins, c'est-à-dire les chiffonniers.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous utilisez le terme bifin, qui est un terme ancien et argotique pour parler du chiffonnier. Donc là encore, on est aussi dans une sorte de sanctuarisation des vieux mots. Enfin bon, c'est assez rigolo là-dessus. Et puis donc, alors qu'elle est en train de faire tout ce côté de tri et tout, la voilà qui part faire son jogging et qui croise sur la route un petit tas d'ordures. Et là, ce petit tas d'ordures, il y a un petit billet de PMU qui flotte au-dessus. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou autre chose? Plus tard, peut-être. Mmh. En tout cas, elle passe devant, elle repasse, elle est émue. Elle va essayer de trouver quelque chose pour l'emporter et elle le ramène chez elle. Et alors qu'elle jette quasiment tout de sa vie, ça, elle le garde. Et elle va le garder tout le livre. Mais pas forcément jusqu'au... Enfin, ça va pas forcément rester tout le temps parce que on va avoir un procédé d'identification avec la personne, qui est probablement une femme, pense-t-elle, de ce petit tas d'ordures, et qui va devenir extrêmement précieux. On pleure de rire, en fait. Vraiment, ce petit tas d'ordures qui lui fait de l'œil, à un moment donné, quand il est chez elle, elle va tourner autour, elle n'ose pas rentrer dedans, regarder ce qu'il y a exactement. Elle va épier d'abord, elle lui passe, elle le regarde et tout. Enfin bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a des données qui sont données, des justifications qui sont données. Donc, il y a le ticket du PMU, avec la promesse d'un argent qui serait bien utile pour le déménagement, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et on a un livre qui est le journal intime d'Etty Hillensum, qui a été donc une dame qui a perdu la vie dans un camp, une jeune fille, oui, c'est une jeune fille en plus, qui a perdu la vie dans un camp de concentration à Auschwitz, hein, c'est ça. Hein. Voilà, et donc, il y a son journal qui est là. Donc, on a des justifications pour conserver ça. On ne jette pas des choses comme ça. Parce que là, vraiment, on est dans... Mais allez-y, pourquoi est-ce que ça, on ne le jette pas? Est-ce que vous allez en jeter des livres?
Alors, déjà, ce petit tas d'ordures qui m'a saisie, il m'a quasiment attrapée par le bras, je ne sais toujours pas s'il s'agit vraiment d'un petit tas d'ordures. Parce que je l'ai analysé, j'en ai analysé le contenu, mais je n'ai toujours pas compris ce que ces choses-là faisaient à cet endroit-là, c'est-à-dire sur le trottoir et dans cet état-là. Avec des choses qui, effectivement, ne se jettent pas comme le... Donc, un livre, un seul livre, c'est le journal... Oui, ça s'appelle « Une vie bouleversée ». C'est le livre qu'on a fait à partir des journaux de Etty Hillensum. Donc, c'est un livre qui, au départ, n'a pas été conçu comme un livre, mais ce sont ces journaux intimes. Et donc, moi, j'ai ramassé tout ça. C'est un livre où il n'y a pas de fiction du tout. Donc, le jeu qui est là n'est pas un jeu mythologique. J'ai ramassé tout ça parce que, d'abord parce que ça m'a attirée. Il y a eu tout d'abord une espèce d'émotion esthétique, ce tas de choses, les couleurs, tout ça. Et puis, quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça comme ça sur le trottoir. Il y avait, pour moi, c'était l'équivalent d'un corps en détresse. D'un corps nu et que je devais protéger. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, j'étais en train de faire le tri en vue du déménagement, que j'avais d'un côté des boîtes à archives et d'un autre côté un sac poubelle et que j'avais quand même jeté 60% de mes affaires. Et tout à coup, je me dis, c'est quand même bizarre que tu jettes 60% de tes affaires. Mais tu vas faire entrer dans tes archives les déchets d'une autre. Et est-ce que ce sont vraiment des déchets? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses-là se retrouvent sur le trottoir? Bon, alors j'ai conçu un livre en deux parties. Là, la structure est simple. D'abord, je voulais m'attacher au rapport quasi érotique, enfin érotique dans le sens où j'avais un attrait du désir. J'avais envie de vivre avec ces choses-là. Et la deuxième partie, c'est l'envers de la médaille, quoi, le côté noir de ces choses-là, parce que après, en vue de les archiver pour le déménagement, j'ai tout trié, tout nettoyé, j'ai tout analysé, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, tout ce qu'il y avait là-dedans. Et il y avait des choses qui étaient quand même pour lesquelles j'avais pas de sympathie, voire même une certaine antipathie. Mais je me suis dit, mais c'est ça en fait, les êtres humains, tu les prends, tu tries pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu dois aussi être capable d'accueillir, disons, pour le dire d'une manière simple, le mal. Faut l'accueillir aussi en soi et le gérer, le comprendre. Et donc j'ai consacré deux boîtes à archives en fait à ces choses-là qui sont pas totalement aimables. Mais voilà. En revanche, j'ai gardé secrète l'identité de la personne que je n'ai jamais dévoilée à personne parce que je pense que l'identité doit rester secrète parce que c'est même presque sacré, quoi. On met pas, on jette pas en pâture comme ça
une forme d'indécence en fait, quelque part.
Oui. Ah. Moi, j'ai pris ça en fait pour protéger. Je les ai mises à l'abri, ces affaires-là. Ça a l'apparence d'un petit tas d'ordures, je ne sais pas pourquoi c'est là. J'ai pas vraiment après coup, j'ai pas de sympathie pour ce que ça représente, mais je le protège. Voilà.
Et pourtant, vous dites que vos lettres personnelles, vos journaux intimes, tout ce qui fait que plus tard les exégètes pourront dire « Tiens, elle avait écrit ça, ça peut expliquer telle ou telle manière », enfin, tout ce que l'on aime bien recevoir des auteurs du passé, oui. Tout cela, vous décidez surtout de ne pas l'archiver et que vous ne voulez pas que cela passe à la postérité. Vous voulez vraiment... comme si vous vouliez vous effacer ou effacer quelque chose de vous, ou vous ne voulez laisser que la crête émergée des livres qui est la seule chose réellement consciente. Ou est-ce que, je me suis aussi posé la question, parce qu'à un moment donné, dans le livre précédent, vous faites la différence entre l'amateur d'art et le professionnel. L'amateur qui va pouvoir prendre immensément de plaisir, mais le professionnel, c'est celui qui va théoriser par-dessus ce plaisir et avoir un but dans ce qu'il produit. Alors, est-ce que... Je me suis vraiment... C'est une question très ouverte, en fait, parce que... Pourquoi?
Je suis très mal à l'aise avec l'idée de laisser ce genre de traces. Disons que les carnets, les cahiers, les journaux intimes me sont très utiles parce que c'est des outils en fait pour moi. C'est une mine, quoi. Je pioche, je sais que j'ai pensé à ça à telle époque, dans telle situation, que je sais que j'avais écrit des pages et que j'avais réfléchi à telle chose. Donc, j'ai besoin d'y retourner, mais ça n'a d'intérêt que pour moi. Enfin, j'aime pas l'idée de postérité. Je parle que pour moi, hein. Je parle pas. Les autres font ce qu'ils veulent, mais j'aime pas l'idée de. Comment dire, de penser à la postérité, à l'éventuelle importance que ça pourrait avoir. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu ronflant quand même, comme perspective. Et voilà, en revanche, je dis ça, mais je suis vraiment amatrice je lis beaucoup de correspondances et d'écrits personnels. Donc, c'est un peu incohérent, je l'avoue.
Mais bon, moi, ça m'a fait penser à ce que disait René Char. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. En fait, vous enlevez les preuves, vous laissez les traces.
Exactement.
Peut-être, oui. Pour conclure, il y a tellement de sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter. L'égotisme, par exemple. Enfin bon, il y a tellement de choses, mais c'est trop riche. C'est comme ça. Voilà. On avait dit une dernière lecture,
oui,
de Sans valeur.
D'accord.
Et là, il y a le Crouton de pain.
Ah oui.
Ah, c'est un grand morceau.
Oui, surtout que j'en ai
et
eu des
et on terminera là-dessus.
Oui. On est en retard, il faut que je lise vite ou... Non. Allez. Dans les pages qui suivent, je vais redire à peu près la même chose, mais autrement. Sans doute le besoin de laisser des traces m'y pousse. J'aimerais mieux avoir des aventures. C'est toujours ce qui a motivé mes sorties et mes départs. Mais depuis plusieurs années, hélas, c'est un autre genre d'activité. Des aventures avec moi-même, en quelque sorte. Et ça a lieu dans ma chambre. J'en ai d'ailleurs établi un catalogue raisonné. 12 ans avant le déménagement, j'ai fait ça pendant plusieurs week-ends pluvieux. Il s'agit tout simplement d'une liste de choses avec leur mode d'emploi. Celui-ci peut s'avérer complexe. Comme je cherche la clarté, ces notices m'ont demandé de gros efforts pour précisément escamoter le labeur. Pour certains articles de mon inventaire, en effet, le mode d'emploi n'était pas évident à rédiger tant il se dérobe à la pratique. Par exemple, un crouton de pain conservé dans une boîte en plexiglas. Il échappe aux instructions. Ma notice indique simplement sa raison d'être. À la fin d'un repas d'anniversaire, j'ai sauvé ce bout de pain au moment où l'on nettoyait la table pour y installer un jeu de société. En vieillissant, sa beauté s'est accentuée. De moelleux, il est devenu ferme et irrécupérable. Il n'était plus bon à rien. Ce n'était plus une denrée, pas encore un caillou. J'en parle désormais au passé. Il est parti. J'aimais le regarder. En général, j'aime regarder les reliefs d'une table aux nombreux convives. Je le trouvais tellement beau, ce crouton de pain, que j'ai envisagé de le vendre à un prix exorbitant. Je m'étais alignée sur le prix d'une voiture de collection purement décorative. Elle ne roulait pas plus que mon crouton pourrait être mangé. Paradoxalement, une certaine coutume fait des objets qui ne servent plus des attributs de la prospérité. On les collectionne, on les assure, on les protège. Libérés du travail, leurs cotes s'envolent. Cela aurait pu se passer ainsi avec le cône sacré dont je viens de parler, beau comme un coude. Je continue là où...
Juste un petit paragraphe encore.
À une certaine époque, les croûtes de pain faisaient partie des éléments recherchés par les chiffonniers. Leur moisson était abondante. La variété de ce qu'ils transportaient dans leurs hottes, après des nuits à fouiller les ordures, témoigne des besoins des industriels en matières diverses. Les chiffonniers leur vendaient leurs récoltes de chiffons, boîtes en fer, papier, chaussures, loques, mèches de cheveux et des croutons de pain. C'était au XIXe siècle. Je crois qu'en ce siècle à sentiment, mon crouton aurait valu quelque chose. Mais personne n'a eu envie d'acheter mon crouton de pain. Bon, là, faut que j'arrête, non?
Oui.
Hein, faut que j'arrête. Malheureusement, cette histoire du crouton, effectivement, elle est pas mal. Surtout que j'ai eu des nouvelles de mon crouton il n'y a pas longtemps. Parce que je finis juste pour dire que j'ai offert ce crouton de pain à un couple, un jeune couple. Enfin, c'est un cadeau de mariage. Donc dans une petite boîte en plexiglas. Et au début, ils ont trouvé ça bizarre, etc. Bon, en fait, ils se sont séparés. Et dernièrement, ils m'ont contacté pour me dire que c'est la femme qui a gardé qui a le croûton en garde. Et j'ai des nouvelles de temps en temps. J'ai des photos. Il a absolument pas changé. En 12 ans, il est impeccable. Voilà.
Gaëlle Obiegli, merci infiniment. Bonsoir à tous.
Merci à vous. Merci. C'est vous que j'applaudis, hein. C'est pas moi.